dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakis.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la région du bassin du lac Tchad. Cette région constitue entre autres des pays riverains que sont le Tchad, le Niger, la République centrafricaine, le Nigeria et le Cameroun rencontrent de nombreuses difficultés du fait du lac Tchad qui s'assèche et des tensions causées par les attaques du groupe terroriste Boko Haram. C'est dans ce contexte que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement et ses partenaires, vient d'annoncer le lancement de la nouvelle phase d'un programme de stabilisation qui se déroulera de septembre 2024 à août 2028. Eric Manirakiza fera le point de la situation. Il s'est entretenu avec Njoy Atikoum, directeur du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. À suivre aussi l'analyse du professeur Saïbou Issa, professeur en histoire et en études de sécurité. Il est doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Maroua à l'extrême nord du Cameroun. Il est également le coordinateur du centre d'études sur la paix, la sécurité et l'intégration de la dite université. Nous irons ensuite au Soudan pour évoquer le viol des femmes, un phénomène qui selon Human Rights Watch prend de l'ampleur alors que l'armée est en guerre contre les paramilitaires, les forces de soutien rapide. Le fait marquant de la semaine, c'est la journée sans presse ce mardi au Sénégal. Les patrons des médias qui ont initié cette action disent vouloir alerter sur les difficultés dans leur secteur. Nous en parlerons avec Maké Danioko, journaliste et fondateur du groupe Alkuma, partenaire de VOA Afrique à Tambacounda. À suivre enfin le reportage de notre correspondant au Mali, Mohamed Danioko. Il nous parlera d'un projet de numérisation et de vulgarisation de manuscrits soutenu par les États-Unis. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Une nouvelle phase du programme de stabilisation dans le bassin du lac Tchad a été lancée par le PNUD, la commission du bassin du lac Tchad et ses partenaires du mécanisme de stabilisation régionale dans le bassin du lac Tchad. Cette nouvelle phase se distingue par une approche renforcée d'inclusion locale et de collaboration transfrontalière. Elle met aussi l'accent sur l'intégration des femmes et des jeunes tout en cherchant à pérenniser les efforts en transférant progressivement la responsabilité aux États concernés. Cette nouvelle phase du programme se déroulera de septembre 2024 à août 2028. Les précisions avec Eric Manirakiza.
L'un des axes principaux de cette phase est la consolidation de l'inclusion locale à travers la création de commissions mixtes au niveau communal, explique Njoy Atikoum, directeur du hub sous-régional du PNUD pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
C'est aussi le fait qu'au niveau local, nous avons aussi créé les commissions mixtes, les commissions des communautés mixtes, avec les forces des armées, les autorités locaux, les forces religieuses, les groupes religieux, beaucoup plus intégrés aussi au niveau communal. Et certaines de ces communautés décident eux-mêmes ce qu'ils veulent et ce qu'ils voudraient voir dans les localités. D'ailleurs, certaines de ces communautés sont aussi siégées par les femmes locaux et qui aussi est un accent que nous voudrons mettre sur cette deuxième phase. Donc, on a la commission du bassin de la Tchad qui nous aide avec la collaboration intergouvernementale. On a les comités nationaux et les comités locaux qui nous aident aussi à pérenniser ce programme au niveau national et au niveau local et veiller à ce que la collaboration nationale locale est stabilisée, mais aussi à ce que la collaboration, comme je disais avant, inter-pays dans la région du bassin de la Tchad, en utilisant déjà les mécanismes mis sur place par les États membres est beaucoup plus utilisé.
Un autre aspect novateur de cette phase est l'accent mis sur l'intégration des femmes et des jeunes qui sont identifiés comme les principaux groupes bénéficiaires, souligne Njoy Atikoum.
On a presque 4 millions de gens déplacés dans cette région. Et parmi ces 4 millions, la majorité, c'est les femmes. Donc le programme, cette deuxième phase, va mettre en vigueur une approche beaucoup plus accentuée sur l'amélioration de l'intégration des femmes mais aussi sur les jeunes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en choisissant les bénéficiaires, nous regardons deux volets. D'abord, qui sont ceux qui sont beaucoup plus déplacés? Qui sont ceux qui vivent dans les endroits les plus fragiles et abandonnés? Mais il faut aussi avouer que ce programme, le but de ce programme, c'est de créer un sursaut civil. Et créer un sursaut civil veut dire faire rentrer les gens dans les communautés qui étaient par ailleurs abandonnées. Et nous croyons que les populations principalement déplacées seront les bénéficiaires principaux, mais aussi les États. Parce que c'est aussi une opportunité à faire rapprocher pour les États, les institutions étatiques, à côté de leurs peuples, dans les zones qui sont d'habitude fragilisées et abandonnées, et en passant par la provision et l'amélioration des services de base, des infrastructures des services de base que nous allons travailler à mettre sur place.
Pour garantir la durabilité des efforts de stabilisation, cette phase prévoit un transfert progressif de la responsabilité aux États concernés, précise l'OPNUD.
Et pour dire la vérité, c'est les États qui doivent stabiliser les régions. Donc la responsabilité de stabiliser revient toujours aux États. Donc nous devons avoir une stratégie qui vise à augmenter la capacité des États membres, à promouvoir les initiatives déjà localement développées par les États membres pour stabiliser ces régions qui sont fragiles, qui sont souvent abandonnées. Je n'oserais pas dire sans gouverner, mais mal gouverner, parce que c'est au-delà de la périphérie d'où est concentré le développement. Donc c'est d'abord une responsabilité étatique. Mais en tant que partenaire du développement, nous avons aussi l'obligation d'amener toutes nos expertises, d'amener toutes nos ressources. Il va falloir que les États membres, à un moment donné, reprennent complètement la conception, le développement et la mise en œuvre entièrement de ce programme. Et c'est pourquoi notre partenariat avec la commission du bassin de la Tchad sur le guide d'ambassadeur Nuhu est vraiment une idée qui s'est vraiment impliquée dans ça. C'est pourquoi notre partenariat avec cette institution nous donne un peu d'espoir à la porte de sortie, à comment créer une porte de sortie pour que nous aussi on ne devienne pas un acteur qui crée une dépendance perpétuelle dans la sous-région.
Cette approche globale, axée sur l'inclusion locale, la collaboration transfrontalière et la responsabilisation des États, vise à toucher entre 4 et 5 millions de personnes et à créer une base solide pour une stabilisation durable du bassin du lac Tchad, permettant ainsi aux communautés les plus vulnérables de reconstruire leur vie dans un environnement sécurisé et prospère.
Merci Eric Manirakiza. Et pour mieux comprendre la situation dans le bassin du lac Tchad, retrouvons à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun, Saïbou Issa, professeur en histoire et études de sécurité, doyen de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Maroua. Il est également le coordinateur du centre d'études sur la paix, la sécurité et l'intégration de cette université. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Alors, professeur, tout d'abord, quand on parle de la région du bassin du lac Tchad, à quoi est-ce que cela renvoie? Pouvez-vous nous en faire une brève présentation?
Alors, la région du bassin du lac Tchad est constituée de régions et d'États du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger, et riverains du lac Tchad de façon globale, ou alors d'une façon ou d'une autre ayant recevant les effets du lac. Il s'agit au Tchad de la province du Hadjer Lamis et de la province du Kanem, au Niger, la région de Difa, au Nigeria, les États de Yobe, du Borno et de Adamawa, et au Cameroun, la région de l'extrême nord et la région du nord.
Alors, professeur, la région du bassin du lac Tchad a subi et continue sans doute de subir les affres des attaques terroristes menées notamment par le groupe Boko Haram. Pouvez-vous nous parler de l'impact du terrorisme sur cette région?
Alors, l'impact le plus visible est celui du déplacement massif et inédit de population, que ce soit les déplacés internes ou encore les déplacés externes, à savoir les réfugiés. À ce jour, nous sommes à plus de 6 millions de déplacés, à savoir 3 millions de déplacés internes dans les 4 pays affectés, plus de 2 millions de retournés, c'est-à-dire des anciens déplacés qui sont rentrés dans leur communauté, et 470 000 réfugiés. La situation de ces 470 000 réfugiés est parmi celles qui préoccupent beaucoup aujourd'hui le HCR et ses partenaires, parce que 10 ans après, les réfugiés auraient dû soit être rentrés dans leur communauté de départ, soit être en position d'intégration. Ce qui n'est pas aujourd'hui fait, tandis que la concurrence d'autres zones de crise fait en sorte que la prise en charge de ces réfugiés-là s'est amenuisée, d'où la nécessité de rechercher des solutions alternatives. À cela, il convient d'ajouter tout le désastre humain qui s'en est suivi avec le deuil qui est rentré dans un nombre considérable de familles et qui se poursuit avec des attaques sporadiques que Boko Haram mène à travers ces trois organisations qui sont aujourd'hui en activité. Il faut évidemment y ajouter la déstructuration sociale avec des villages qui sont complètement détruits et des zones qui sont devenues quasiment inaccessibles et donc impropres à la production économique, notamment non disponibles pour l'agriculture, l'élevage, etc.
Alors, professeur, au-delà de ces problèmes créés par l'insécurité, est-ce que vous pouvez nous parler des problèmes économiques, environnementaux spécifiques à cette région? On parle notamment de l'assèchement du lac Tchad qui cause du tort aux populations.
Alors, la question de l'assèchement du lac Tchad est un débat qui est ancien et qui se renouvelle chaque année, chaque fois qu'il y a des fluctuations climatiques qui surviennent. Nous sommes dans une zone où l'alternance des périodes de haute pluie et des périodes de sécheresse est quasiment cyclique et quasiment récurrente, faisant en sorte que des réflexions ont été engagées et des programmes ont été mis en branle au sein de la CBLT, notamment le transfert d'une partie des eaux de l'Ubangi pour renflouer le lac, question de stabiliser cette réserve d'eau qui impacte quand même la vie d'environ 30 millions de personnes tout autour du lac. Parce que, il faut le dire, les abords du lac Tchad sont, notamment avec les terres exondées, un espace propice à l'agriculture avec des possibilités d'avoir des récoltes biennales, espace propice à l'élevage, mais aussi, aujourd'hui, plus que par le passé, espace propice à l'agriculture, à la pêche, je veux dire. À cela, il faut ajouter la déstructuration des circuits économiques, la déstructuration des places commerciales, notamment les marchés frontaliers comme celui de Bangui, qui ont été de tout temps des marchés régionaux. Il faut garder présent à l'esprit que le bassin du lac Tchad a une économie itinérante. L'ensemble des activités productives, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche, sont des activités qui sont menées par des jeunes et des moins jeunes qui vont d'un point à l'autre, et c'est pour ça que je parle d'une économie itinérante. Lorsqu'il n'est plus possible de se mouvoir d'un point à un autre en sécurité, eh bien alors vous comprenez tous les dommages que Boko Haram fait subir à l'économie rurale, urbaine depuis aujourd'hui une décennie.
Oui, vous avez parlé justement de la CBLT, c'est une commission qui existe depuis quasiment les indépendances des pays de la région qui se sont réunis pour justement créer cette commission-là afin de régler les problèmes qui s'y posent. Comment est-ce que vous jugez le bilan de cette commission?
Alors, la commission du bassin du lac Tchad, comme vous l'avez bien pu constater, est une organisation à la limite interrégionale dans la mesure où ce sont des États appartenant du point de vue géopolitique à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique centrale qui s'y retrouvent. C'est l'une des organisations les plus anciennes parce que mise en place depuis 1964 avec a priori un mandat écologique, mais sous-jacent à ce mandat écologique, il y a une logique de prévention des conflits d'usage des eaux de manière à ce que la collégialité fasse en sorte que prime sur les unilatéralismes qui auraient eu pour conséquence des conflits entre les États riverains, n'ayant pas tous les mêmes moyens d'exploitation de ces capacités d'exploitation de ces ressources. La CBLT a été en mesure, davantage encore ces dernières années, d'assurer la coordination des actions de stabilisation. Quand je parle de stabilisation, ce n'est pas ce que la stabilisation perçue selon la stratégie régionale de stabilisation. Je parle de la stabilisation en termes de sécurité, en termes de retour à la paix, parce que des conflits assez sérieux avaient été observés entre les États au niveau du tracé des frontières, au niveau de la sécurisation du lac. Ça, la CBLT a été au cœur de ce processus-là de démarcation et surtout de délimitation, mais surtout de démarcation de ces frontières, de mise en place d'une patrouille mixte avant que la force multinationale mixte puisse être mise en place en 2016, une force qui est constituée des quatre États et du Bénin pour lutter contre.
Alors, professeur Saïbou Issa, vous êtes toujours avec nous? Je crois que nous avons perdu le professeur Saïbou Issa. Merci en tout cas au professeur Saïbou Issa qui était avec nous depuis Maroua, à l'extrême nord du Cameroun, pour évoquer la situation dans la région du bassin du lac Tchad. C'était le sujet principal de cette édition de Focus Sahel. La suite, c'est dans un instant.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression,
l'éducation, les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Rendons-nous maintenant au Soudan pour la deuxième escale de ce voyage. Les paramilitaires des forces de soutien rapide ont commis de nombreux actes de violence sexuelle dans la capitale Khartoum, notamment des viols collectifs et des mariages forcés dans le cadre de la guerre qui les oppose aux forces armées. C'est en tout cas ce qu'indique un rapport de Human Rights Watch. Les détails dans ce reportage de Maï Shams Eldin. Le récit est de Rosine Mounezero.
Le nouveau rapport de Human Rights Watch indique que les femmes sont de plus en plus victimes de viols lors de ces attaques, également attribuées à l'armée contre laquelle les forces de soutien rapide luttent depuis avril 2023. L'activiste soudanais Nidal Ahmed souligne que ces victimes ont besoin d'un soutien psychologique.
Les femmes ont actuellement besoin d'un soutien psychologique important. On constate que les taux de suicide sont en hausse, en particulier chez les femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Dans la société soudanaise, cela est considéré comme un stigmate, qu'elles soient victimes ou auteurs. Les femmes sont donc de plus en plus nombreuses à se suicider. Ce sont donc autant d'indicateurs qui nous obligent à adopter une position ferme.
Les témoignages recueillis sont tels que les forces de sécurité détiennent des femmes et des filles dans des conditions qui pourraient s'apparenter à de l'esclavage sexuel et les agressent devant leur famille.
42 entretiens que nous avons menés avec les groupes que je viens de mentionner, 18 des prestataires de soins de santé que nous avons interrogés, nous dit qu'ils avaient fourni des services à 262 survivants de violences sexuelles entre avril 2023 et février 2024, ce qui correspond plus ou moins à la période couverte par ce rapport. Bien que nous fournissions un chiffre pour les cas potentiels de violences sexuelles à Khartoum, nous voulons également souligner qu'il y a un risque de double comptage et surtout qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit sans aucun doute d'un type d'abus très répandu.
Les maisons où se trouvent des femmes et des filles sont souvent des cibles des combattants.
Un témoignage nous a appris que les femmes et les filles sont menacées de viol par les forces de soutien rapide du Soudan et par les forces armées soudanaises. Nous avons peur en permanence des incursions des forces de soutien rapide du Soudan dans nos maisons. Nous ne pouvons pas dormir à cause de cette peur. Tous les jours, il y a un raid dans une maison et ils essaient de violer une femme. Ils ne se contentent pas de piller, ils ciblent des maisons spécifiques parce que les femmes s'y trouvent. Ils entrent et demandent à voir les femmes et les filles qui s'y trouvent. En tant que femmes de la région, nous avons commencé à nous rendre dans chaque maison qui a fait l'objet d'un raid et à essayer de parler à la femme, de boire un café avec elle et de lui témoigner notre solidarité. Je pense que beaucoup d'entre elles ont été violées, mais elles ne veulent pas le dire de peur d'être stigmatisées. Parfois, les hommes de la maison et les femmes parviennent à supplier les agresseurs ou à les confronter pour mettre fin au raid ou à la tentative de viol. Cela marche parfois, mais parfois cela ne marche pas.
Le viol est donc devenu monnaie courante dans les zones de combat au Soudan.
Les forces de soutien rapide, en particulier, ont commis des actes de violence sexuelle dans les zones de Khartoum, certainement dans des zones sur lesquelles elles exercent un contrôle. On a pu observer un lien entre l'occupation des zones résidentielles et des maisons par les forces de soutien rapide et l'augmentation des signalements de violences sexuelles et d'autres abus. La violence sexuelle s'est ensuite généralisée et nous avons commencé à observer des tendances de viol collectif, de mariage forcé, de mariage d'enfants et d'enlèvement de femmes et de filles dans les zones contrôlées par les forces de soutien rapide.
Le conflit a donné lieu à des meurtres motivés par des considérations ethniques dans la région occidentale du Darfour, où les RSF et les milices alliées sont accusés d'avoir mené une campagne d'attaque, y compris d'agression sexuelle, contre le groupe ethnique Massalu.
À présent, le fait marquant de la semaine, et on s'en va pour cela au Sénégal. Ce mardi est une journée sans presse là-bas. Il est prévu que les journaux ne paraissent pas, qu'il n'y ait pas d'émissions de radio et de télévision, que les sites d'information appartenant à des entreprises de presse ne diffusent pas. Les patrons des médias qui ont initié cette action disent vouloir alerter sur les difficultés dans leur secteur. Et pour en parler, retrouvons tout de suite Maké Danioko. Il est journaliste fondateur du groupe Alkuma, partenaire de VOA Afrique à Tambacounda. Bonsoir, Maké Danioko.
Bonsoir, mon cher ami, comment vous allez?
Très bien, merci. Nous sommes contents de vous avoir au Sénégal, où aujourd'hui, je l'ai dit, hein, c'est une journée presse morte. Alors, est-ce que l'appel à cette presse morte a été suivi? Comment s'est déroulée la journée, déjà dans votre groupe de presse et dans le monde des médias en général?
Merci. Je voudrais d'abord préciser que le groupe Alkuma n'a pas suivi ce mot d'ordre. Au niveau national aussi, la presse écrite, par exemple, les journaux qui paraissent tous les jours, à ce niveau, l'appel a été suivi, mais les portails web d'information, beaucoup de portails web n'ont pas suivi. Et certains groupes de presse privés aussi n'ont pas suivi la grève. Et dans l'ensemble, on peut dire que c'est la presse écrite surtout qui a beaucoup suivi. Et depuis hier, on l'imaginait parce que beaucoup d'imprimeurs avaient dit qu'ils vont fermer leurs portes hier pour que cette journée puisse connaître un succès. Au niveau de la presse écrite, oui, je peux le dire, mais concernant les autres médias, surtout la presse en ligne, en ce qui me concerne, nous, on n'a pas suivi et il y a beaucoup de portes ouvertes pour lesquels je ne voudrais pas faire de la publicité, mais qui n'ont pas suivi du tout cette grève, cet appel.
Alors, Maké Danioko, comment expliquez-vous le fait que certains se désolidarisent de cet appel à une journée presse morte?
Voilà, vous savez, journée presse morte, si on nous avait dit qu'il y avait déjà un ou des journalistes en prison, on peut comprendre. Si on nous avait dit qu'il y a des signaux de certains...
Maké Danioko, allez-y, on vous écoute. La communication définitivement n'est pas bonne avec le Sénégal. Maké Danioko, vous m'écoutez là maintenant?
Bien.
Voilà, alors je vous demandais pourquoi est-ce que certains ont choisi de ne pas observer. Vous avez dit qu'il n'y a pas de journaliste en prison. Et voilà.
Il n'y a pas de journaliste en prison, il n'y a pas de signal de télé ou radio suspendu. Mm-hmm. Et le problème, c'est le paiement de l'impôt relevé et prélevé sur les salaires et la TVA. Et la TVA, etc. Exactement. Et les cotisations sociales. Donc, le fond du problème, c'est ça. Il y a des patrons de presse qui, pendant plusieurs années, les deux régimes libéraux, Abdoulaye Wade et Macky Sall accordaient souvent à la presse ce qu'on appelle des amnisties fiscales. Alors, l'actuel président de la République, avant même d'accéder au pouvoir, a dit que ce n'est pas normal que l'impôt prélevé sur un salaire doit être versé. Et je vous signale que c'est un inspecteur des impôts et domaines. Donc, il sait de quoi il parle. Et aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas suivi parce que très sincèrement, à notre avis, il n'était pas nécessaire. D'autant plus qu'il y avait d'autres possibilités d'échanger avec les autorités. Le reporter sans frontières a invité tout le monde au dialogue parce que réellement, il n'y a pas de quoi à faire un appel.
Voilà. Merci beaucoup, Maké Danioko. On a suivi l'essentiel de cette situation au Sénégal. Et sans transition, pour la note positive de cette édition, nous nous rendons au Mali. Créé en 1972, l'Institut de recherche et des hautes études islamiques Ahmed Baba de Tombouctou œuvre depuis quelques années à cataloguer ses 38 245 manuscrits. Dans ce projet, il bénéficie de l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis, l'objectif étant de rendre disponible le savoir contenu dans ces manuscrits aux chercheurs du monde entier à travers Internet. Reportage de notre correspondant Mohamed Danioko.
Institut de numérisation, de conservation physique des manuscrits, de leur enseignement et de leur catalogage, l'Institut de recherche et des hautes études islamiques Ahmed Baba de Tombouctou a monté avec des partenaires américains un projet de vulgarisation des manuscrits soutenu par les États-Unis à travers leur ambassade au Mali, comme le soutient son directeur général, le docteur Mohamed Diagayeti.
L'Institut fait beaucoup de choses et a fait beaucoup de choses malheureusement qui dorment dans les tiroirs qui ne sont pas connus. C'est pourquoi mes amis et moi, Bruce Hall, qui est à l'université de Berkeley en Californie, et Mauro Nabli, qui est à l'université de Champaign-Urbana en Illinois, donc on a dit qu'il faut faire quelque chose pour que les travaux faits par l'Institut soient connus. Donc c'est pourquoi nous avons monté ce projet. Heureusement, l'ambassade était attentive à notre requête. Elle a accepté de nous appuyer. Donc, qu'est-ce que nous visons avec ce projet? D'abord, cataloguer tous les manuscrits de l'Institut. Non seulement les cataloguer, mais aussi les mettre sur l'Internet, online, comme on dit, pour que ceux qui sont très loin de l'Institut puissent quand même consulter nos catalogues des manuscrits.
Dans cette salle de catalogage, des mains expertes se chargent de renseigner les données des 28 732 manuscrits disponibles à Bamako dans la base. Le chercheur Boubacar Diallo explique qu'une fois le numéro du manuscrit, son titre, le nom de son auteur et le thème qu'il traite mis en ligne, il devient accessible au monde entier.
C'est pour mettre les manuscrits aux portées de tous les mondes de savoir, à savoir les chercheurs, les anciens, les étudiants, pour que tout le maximum du monde entier puisse avoir accès à ces manuscrits.
Les 38 245 manuscrits à l'actif de l'Institut, dont 10 487 à Tombouctou, 10 manuscrits rescapés de la crise, sont une mine de richesses traitant de nombreuses thématiques dans celle relative à la résolution des conflits. Docteur Diagayeté estime que l'Institut peut jouer sa partition dans la résolution des conflits.
Ce manuscrit, nous avons des parties ou bien des données ou bien des thèmes qui traitent des résolutions des conflits. Et je peux juste donner un exemple. Nous avons Tazkirat al-Ghaf en Qadhtilaf al-Mu'minin, un manuscrit écrit par exemple par Alhaj Omar, dans lequel il a tenté de réconcilier entre les deux amirs, Mohamed Bello, qui est amir de Sokoto à l'époque, et amir de Borno, qui était en conflit. Donc nous avons des cas pareils. Effectivement, le manuscrit peut être l'inspiration quand même pour aller vers la réconciliation, la cohésion sociale et de vivre ensemble.
Avec la numérisation, la conservation physique et l'édition des catalogues pour les zones avec des difficultés d'Internet, l'Institut se bat pour perpétuer l'héritage des rédacteurs de ces manuscrits, c'est-à-dire rendre le savoir universel. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Merci beaucoup Mohamed Danioko. Merci à tous ceux qui ont écouté et regardé cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site web voaafrique.com.